Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1947 à partir de notes prises sous le nazisme, LTI, la langue du Troisième Reich, est à la fois un essai de philologie, un document historique et un témoignage intellectuel. Victor Klemperer, professeur de littérature et philologue allemand, y examine les transformations que le régime hitlérien a imposées à la langue allemande entre 1933 et 1945. Juif privé de sa chair, puis soumis au travail forcé, il observe ces mutations depuis une position de persécuté, tout en recueillant des expressions entendues dans la rue, dans la presse, dans les discours et dans les conversations ordinaires. Le titre « Lingua terti imperii » parodie notamment le goût nazi pour les sigles. Le livre ne se réduit pas à un lexique des mots du régime, il montre comment des répétitions, des glissements de sens, des euphémismes et des tournures émotionnelles modifient progressivement les habitudes de jugement. Son objectif est de rendre visible le lien entre langage, idéologie et consentement social, sans dissocier l'analyse des mots de l'expérience concrète de la dictature. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la langue comme administration graduelle de l'idéologie. La thèse directrice de Klemperer est que le pouvoir totalitaire n'agit pas seulement par les lois. La violence et la censure, il agit aussi en installant une manière de parler qui finit par devenir une manière de percevoir. Sa comparaison célèbre avec de petites doses d'arsenic souligne le caractère progressif du phénomène. Un mot isolé peut sembler anodin. Répété dans les journaux, les allocutions, l'école, les affiches et les échanges quotidiens, il impose peu à peu ses associations et ses réflexes. L'originalité de LTI tient à cette attention aux mécanismes ordinaires de l'imprégnation plutôt qu'au seul grand discours de Hitler ou de Goebbels. Klemperer constate que la propagande atteint pleinement son but lorsqu'elle est reprise machinalement par des personnes qui ne se pensent pas nécessairement militantes. La langue ne transmet alors plus seulement une doctrine explicite, elle prépare les conditions psychologiques de son acceptation. Le livre invite ainsi à distinguer l'intention déclarée d'un mot de ses effets accumulés dans un contexte politique. Une expression peut banaliser la guerre, présenter l'exclusion comme une nécessité collective ou rendre l'obéissance désirable sans formuler à chaque fois l'ensemble du programme nazi. Cette analyse explique pourquoi Klemperer traite les habitudes syntaxiques, les adjectifs valorisés et les formules toutes faites comme des faits historiques majeurs. Pour lui, surveiller les mots n'est pas un exercice de purisme, c'est préserver la capacité de nommer les réalités et de leur résister intellectuellement. Deuxièmement, répétition. Simplification et exaltation, la mécanique stylistique de la LTI. Klemperer insiste sur un paradoxe important, la langue du Troisième Reich ne se distingue pas principalement par une créativité lexicale exceptionnelle. Elle recycle largement des mots existants, mais les charge d'une valeur idéologique nouvelle par la fréquence, l'insistance et le contexte. Cette pauvreté répétitive est fonctionnelle. Des formules brèves, emphatiques et reconnaissables réduisent la place de la nuance. Elles favorisent une réaction affective immédiate plutôt qu'un examen raisonné. Le vocabulaire de l'héroïsme, du combat, du sacrifice, de la grandeur ou du fanatisme cesse ainsi d'être descriptif et acquiert une valeur positive. Klemperer relève aussi l'importance d'un ton hyperbolique et d'une dramatisation permanente, qui font paraître toute situation comme une épreuve décisive pour la communauté nationale. Cette rhétorique transforme la politique en mobilisation émotionnelle continue. L'analyse ne suppose pas que tout locuteur, reprenant ses mots, adhère consciemment à toutes leurs implications. Elle montre plutôt que les catégories linguistiques disponibles orientent ce qui paraît noble, honteux, menaçant ou normal. La simplification stylistique devient donc une simplification du jugement, les ambiguïtés humaines et les désaccords disparaissent derrière des oppositions rigides. En examinant les mots dans leurs usages répétés, plutôt que dans une définition abstraite de dictionnaire, Klemperer donne une méthode précise pour comprendre la propagande. Il faut observer quels termes reviennent, lesquels sont valorisés, quelles émotions ils sollicitent et quelles réalités ils rendent de plus en plus difficiles à formuler. Troisièmement, les euphémismes qui voilent la persécution et la mise à mort. Une dimension essentielle de LTI est l'étude des mots qui dissimulent la violence d'État sous une apparence administrative, technique ou neutre. Klemperer attire l'attention sur les expressions qui ne décrivent pas directement les persécutions, les déportations, la torture ou l'extermination, mais les recouvrent d'un voile verbal. Ces mots-voiles permettent de créer une distance entre l'acte et sa désignation. L'expression « Endlösung der Judenfrage ». La solution finale de la question juive est devenue l'exemple le plus connu de cette logique, sa formulation bureaucratique masque un projet génocidaire. De même, Sonderbehandlung, littéralement traitement spécial, pouvait servir à éluder des pratiques de meurtre ou de sévices. L'enjeu n'est pas seulement le secret, même si l'opacité protège les responsables. L'euphémisme modifie également la perception morale de ceux qui le lisent ou l'emploient. Il remplace des verbes concrets par des catégories impersonnelles et rend l'horreur moins immédiatement dissible. Klemperer montre ainsi que le langage administratif peut devenir un instrument de déresponsabilisation. La disposition des victimes derrière des abstractions facilite leur traitement comme objet d'une procédure. Son analyse reste rigoureuse parce qu'elle ne confond pas toute langue institutionnelle avec un mensonge. Elle met en évidence les circonstances où le choix systématique de termes obscurs ou neutres sert à soustraire un acte à l'évaluation éthique. Lire ces passages apprend à demander ce que recouvre une formule officielle, quels agents accomplissent l'action et quelles personnes en supportent les conséquences. Quatrièmement, Volk, communauté nationale et effacement de l'individu, Klemper analyse la place structurante du mot Volk, généralement traduit par peuple, dans l'imaginaire linguistique nazi. Employé comme préfixe dans de nombreuses expressions, il donne l'impression que les institutions, les décisions et les sacrifices du régime procèdent naturellement de la communauté nationale. Or, ce mot ne renvoie pas à une population diverse de citoyens. Dans l'usage idéologique que décrit le livre, il tend à désigner un corps homogène, racialement défini et opposé à des ennemis supposés. La prolifération de composés autour de Volk fait donc davantage qu'ajouter une couleur patriotique au vocabulaire, elle fait passer des objectifs de parti et des mesures coercitives pour l'expression du bien commun. Ce procédé réduit simultanément la visibilité des individus. Les personnes ne sont plus envisagées à travers leurs droits, leurs expériences ou leurs désaccords, mais selon leur appartenance ou leur exclusion de la collectivité proclamée. Klemperer relie cette tendance à une langue qui valorise l'unanimité, la fusion dans la masse et la soumission à une mission collective. Il importe de noter que son propos est philologique et historique, il n'affirme pas qu'un mot tel que Volk serait intrinsèquement nazi. Il étudie sa mobilisation répétée dans un système de propagande précis. Cette nuance est capitale pour sa méthode. Les mots n'ont pas un sens politique fixe hors de tout usage, mais leur circulation, leurs associations et leurs effets institutionnels peuvent les transformer. LTI permet ainsi de comprendre comment une rhétorique de l'unité peut exclure ceux qui ne correspondent pas à la définition imposée de la communauté. En dernier lieu, un carnet de philologue écrit depuis l'intérieur de la persécution. La force particulière de LTI vient de sa forme Klemperer, n'écrit pas une étude rétrospective détachée de son objet, mais organise des observations accumulées pendant les années de dictature. Ses analyses de vocabulaire sont constamment éclairées par les conditions concrètes dans lesquelles il vit l'éviction de l'université, les interdictions imposées aux Juifs, le travail forcé et la précarité croissante. Cette situation donne au livre une double portée. Il constitue une enquête sur les usages linguistiques fondée sur des discours publics, des journaux, des affiches et des paroles quotidiennes. Mais il est aussi un exercice de sauvegarde intellectuelle. Nommer avec exactitude les falsifications de la langue aide l'auteur à ne pas adopter la réalité que le régime cherche à imposer. Cette articulation empêche de lire LTI comme un manuel abstrait de propagande. La pression politique pèse sur la possibilité même d'opérer, de consigner et de parler. Klemperer montre également que la LTI dépasse les cercles dirigeants, elle circule parmi des voisins, des collègues ou des gens ordinaires, parfois sans intention explicite de propagande. Sa documentation est donc précieuse pour l'histoire culturelle du nazisme, car elle relie les mots officiels à leur pénétration dans la vie sociale. La forme fragmentaire, faite de chapitres courts et d'exemples, convient à son objet, elle restitue la présence diffuse de la langue nazie dans les détails du quotidien. Le lecteur y voit qu'une vigilance critique ne consiste pas seulement à réfuter des slogans, mais à conserver une précision de jugement lorsque les mots disponibles tentent à l'abolir. En conclusion, LTI. La langue du Troisième Reich s'adresse d'abord aux lecteurs d'histoire du nazisme, aux étudiants en sciences politiques, en linguistique, en communication ou en philosophie politique. Il intéressera aussi toute personne qui veut comprendre concrètement comment la propagande passe des discours officiels aux réflexes ordinaires de langage. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir une méthode d'attention, ne pas s'arrêter à la définition apparente d'un terme, mais examiner sa répétition, ses connotations, les émotions qu'il organise, les réalités qu'il masque et les groupes qu'il inclut ou exclut. Cette lecture ne justifie pas l'assimilation rapide de toute rhétorique contemporaine au nazisme. Au contraire, elle apprend à situer les mots dans leurs institutions, leurs usages et leurs conséquences réelles. Par rapport aux synthèses historiques sur le Troisième Reich, le livre se distingue par son échelle d'observation. Klemperer ne raconte pas seulement les décisions du pouvoir, ni ne propose uniquement une théorie générale du totalitarisme, il suit la déformation des significations dans la matière, même de la vie quotidienne. Par rapport à des ouvrages plus généraux sur la manipulation politique, son analyse possède la densité d'un témoignage écrit depuis l'intérieur d'un régime persécuteur. Sa compétence de philologue permet d'éviter la simple indignation et de décrire des mécanismes précis, euphorisation de la violence, exaltation guerrière, formules répétitives, abstraction bureaucratique et fiction d'une communauté homogène. C'est cette alliance entre rigueur linguistique, expérience vécue et portée historique qui fait de LTI un texte durable. Il rappelle que défendre la clarté des mots revient aussi à défendre la faculté de juger ce qui est fait en leur nom. Si vous souhaitez soutenir Victor Klemperer, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.